Il est 18h30 sur la Clé des Ondes et c'est l'heure de Point Chaud. Point Chaud, tous les jours de 18h30 à 19h, c'est un tour de l'actu sociale et culturelle sur la Clé des Ondes. Ce soir, on vous propose de réentendre l'essentiel de ce qui s'est dit dans notre plat de résistance. C'était ce midi sur notre antenne. Des agendas, des événements du jour. Aujourd'hui, cela fait 171 ans que la Kanaky Nouvelle-Calédonie est colonisée et occupée par la France. Le 24 septembre 1853, l'État français prenait possession de l'archipel Kanak. Les organisations militantes Kanak ont donc décidé de faire de cette date vive dans la mémoire collective. Et le Kanak, eh bien, en faire le jour symbolique pour affirmer l'indépendance du peuple Kanak sur son territoire, spolié par le colonisateur. Le collectif Kanaky Bordeaux relaie donc cet appel et invite à se réunir aujourd'hui à partir de 17h30 sur la place de la Victoire à Bordeaux. Depuis hier et toute cette semaine, le festival du film sur la justice et les droits humains a lieu au cinéma Utopia à Bordeaux toujours. Ce soir, projection d'un film sur les Gilets jaunes. Ça s'appelle Un peuple et ce sera suivi d'un débat avec Magali Della Suda, chercheuse en sciences politiques, et Pierre-Antoine Cazot, qui est avocat et membre de la Ligue des droits de l'homme. Pour en savoir plus sur ce festival, vous pouvez réécouter l'émission Le film était presque parfait en podcast sur laclédesondes.fr où était invité l'organisateur du festival, donc festival sur du film sur la justice et les droits humains. Midi 12 sur la Clé des Ondes, c'est le plat de résistance. Récupère fait face à des difficultés financières qui mettent en péril l'association et sa survie. C'est le message que les usagers et usagères adhérentes de cet atelier d'autoréparation vélo et de couture ont reçu la semaine dernière. Récupère existe depuis plus de 15 ans et a été pionnier dans le développement de l'autoréparation à Bordeaux et dans la promotion des déplacements à vélo. C'est une asso qui incarne une alternative à un modèle productiviste et consumériste et subit non seulement le manque global de financement du secteur associatif, mais également l'injonction à la croissance, explique leur appel lancé la semaine dernière. Alors parce qu'il nous semble important de soutenir Récupère et aussi que sa situation est emblématique du sort réservé aujourd'hui aux associations, en particulier aux associations employeuses, eh bien on a invité aujourd'hui pour en parler Benjamin Pichot-Garcia. Salut Benjamin.
Bonjour.
Tu es mécanicien animateur à l'association Récupère depuis sa création, c'est ça, depuis 15 ans?
Oui, depuis 2010.
Récupère, c'est un atelier d'autoréparation de mon vélo et de couture, mais pas que. Il y a le visible et il y a l'invisible. Est-ce que tu peux commencer par nous raconter un peu ce que c'est Récupère, Benjamin?
Ok. Bon, ben, en 2008, l'association a été créée. Et ça a commencé avec des petits ateliers ambulants d'autoréparation de vélo. Les fondateurs sont allés à la rencontre des gens et puis... Voilà, ils ont fait la promotion du vélo et de l'autoréparation. En 2010, moi j'arrive et le projet est maintenant de créer une ressourcerie autour du vélo. Donc voilà, donc il y a des ateliers d'autoréparation, c'est-à-dire qu'on met à disposition les outils, les savoir-faire aux gens et ils viennent réparer leur vélo et nous, les salariés et certains bénévoles sont là pour leur apprendre à le faire. Et en dehors des permanences, on va collecter des vélos et on les répare et ensuite on les met en vente. Et voilà, on a commencé comme ça. Et la deuxième année, en 2011, on a ouvert un atelier de couture. Voilà, qui fonctionne sur le même principe. On récupère des coupons de tissu, de la mercerie, on a récupéré des machines à coudre et voilà, et les gens viennent apprendre à coudre, viennent utiliser les machines et faire ce dont elles ont besoin. Et donc, on a reçu beaucoup de gens et on a parlé avec eux et on a été un peu affecté par les problèmes de chacun. Et le projet, il a évolué aussi avec avec les besoins des gens du quartier. Donc, des fois, on prête des outils un petit peu aux voisins d'à côté. Ils nous emmènent des meubles. Voilà, il y a des échanges comme ça qui n'étaient pas prévus. Et aussi, on a été reconnus assez vite comme lieu d'accueil pour des stagiaires, pour des personnes qui traînaient dans la rue et qui ne savaient pas quoi faire. Et pour les personnes âgées qui étaient à la retraite et qui s'ennuyaient un peu, elles venaient à l'atelier de couture ou bien donnaient un coup de main à l'atelier de vélo. On a aussi très tôt fait un partenariat avec l'association TCA, qui est une association de traumatisés crâniens. Et puis aussi avec différents CADA, des MEX, des lieux d'accueil de personnes en difficulté ou bien de migrants. Et le lieu...
MEX, faut dire MEX, maison d'enfants à caractère social,
oui,
qui accueille des jeunes placés souvent.
Et voilà, tout de suite, l'association est devenue un lieu où on pouvait rencontrer toutes sortes de personnes et de différentes catégories sociales, de différentes origines, etc., qui se rencontrent et qui font des choses ensemble. Alors...
Donc c'est ça, c'est le visible et quand je disais le visible et l'invisible, le visible c'est on vient réparer son vélo, on vient réparer des vêtements, on crée des vêtements. Et puis il y a l'invisible, c'est la réduction des déchets, c'est la solidarité, c'est l'éducation populaire, c'est la lutte contre l'exclusion, on pourrait dire. C'est infini presque en fait,
oui,
ce travail-là.
Oui. Mais on n'a pas. Au début, on était très axé sur l'écologie, réduire les déchets, donner une deuxième vie aux objets, au vélo, et aux coupons de tissu, tout réemployer. Et les autres thèmes étaient cachés, étaient secondaires. Et aussi, c'est qu'on n'avait pas besoin d'en parler vraiment, puisque ça allait de soi qu'on était un lieu de solidarité, puisque il y avait des gens qui nous apportaient beaucoup de choses. Et comme on recevait des gens qui étaient dans le besoin, il y avait l'offre et la demande. Et aussi, c'est un lieu où les gens peuvent se mettre en rapport, se rencontrer comme ça, sans que ça soit verbalisé. L'entraide, elle n'est pas verbalisée toujours. Les gens s'entraident naturellement dans l'atelier parce qu'il y a quelqu'un qui peine à réparer quelque chose et quelqu'un d'autre vient l'aider. Comme, par exemple, il y avait beaucoup de militants et puis aussi des personnes qui étaient féministes, des femmes qui voulaient s'impliquer sur ça. Et... rien que le fait que le lieu soit partagé, ça pose les questions du vivre ensemble, de qu'est-ce qui peut se dire, qu'est-ce qui peut se dire, peut pas se dire, qu'est-ce qui est tolérable. Et chacun essaye de mettre un peu d'eau dans son vin pour que tout le monde trouve sa place.
Alors, tu as parlé des salariés, vous êtes 4 salariés aujourd'hui à récupérer, si je me trompe pas. Donc ça veut dire 4 salariés, un loyer à payer, des frais à payer, etc. Ça veut dire un budget et ce que vous dites dans l'appel que vous avez lancé donc la semaine dernière, c'est notamment ça, nous devons d'être francs sur un très court terme, c'est l'existence de Récupère qui dépend de vos dons. Si nous n'atteignons pas l'objectif de 20 000 euros l'objectif de 20 000 euros, nous pourrons continuer l'aventure. Autrement, nous devrons certainement mettre fin à nos activités. Ateliers participatifs, événements conviviaux, éducation populaire et sensibilisation aux problèmes environnementaux. Lieu de vie dans le quartier. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous en êtes arrivé là? Et qu'est-ce qui cloche dans les finances de Récupère aujourd'hui, Benjamin?
Alors, concrètement, on a reçu moins de subventions que les années précédentes, notamment le financement du fonds JEP, le fonds pour le développement de l'éducation populaire.
Jeunesse et éducation populaire.
Donc on en a bénéficié pendant 9 ans et ça s'est arrêté l'an dernier.
Pour des raisons
C'était la fin du dispositif. On a eu aussi la fin des contrats aidés, des subventions un peu moindres, et des augmentations de coûts, notamment sur le loyer, sur les coûts salariaux, puisqu'il y a eu des augmentations de salaire dues au changement de convention. Et le coût des fournitures. et en même temps pour toutes les choses qu'on propose aux adhérents et aux collectivités, on est resté à prix constant. On n'a pas beaucoup fait évoluer nos prix pour rester accessible. Donc, l'écart s'est creusé d'année en année.
Et là, vous en arrivez à cette situation, donc on vous dit, soit on a besoin d'argent pour continuer, soit sinon on va devoir arrêter de faire certaines choses. Ça arrive à un moment où le vélo n'a jamais été autant à la mode, le réusage, le réemploi, pareil, il y a des structures qui se montent partout pour réutiliser, que ce soit les meubles, les vêtements, etc. Comment on t'explique ce croisement-là, où c'est des choses pour lesquelles vous militez, que vous réalisez depuis 15 ans, elles sont presque partout, et puis les difficultés, enfin il y a des difficultés pour vous pour continuer à faire ça?
Voilà, parce qu'il faut avoir une analyse un peu plus fine. Et par exemple, on parle beaucoup du vélo, mais on parle très peu de la couture, alors que c'est à peu près le même travail qui est réalisé. Et ça, les financeurs ne le voient pas toujours. Donc, l'atelier de couture est beaucoup moins financé. Et donc là, il y a des raisons sexistes, des raisons de visibilité, de ne pas vouloir voir. Que ce travail-là, il est énorme à l'atelier de couture. Ensuite, à l'atelier de mécanique vélo, nous, on n'est pas un atelier très à la mode. On est un atelier très populaire où viennent des étudiants, des gens du quartier, des livreurs à vélo, des gens qui cherchent des pièces un peu moins chères. Et en ce moment, ce qui marche beaucoup, c'est les vélos électriques, les vélos de sport, les vélos de voyage. Et notre manière de présenter les choses, elle convainc moins. Parce que c'est plus lié au réemploi et qu'à la mobilité. Voilà. Donc là-dessus, on est moins en phase avec la mode.
Est-ce que ça veut dire que vous êtes vu comme trop gauchiste, trop décroissant, trop politisé?
Peut-être trop décroissant ou trop à part. Dans tous les cas, pas assez dans l'économie dominante qui est sur la communication et sur l'innovation chaque année de ses propositions d'activités, Donc nous, on est resté très simple parce qu'on pense que le vélo et la couture, il n'y a pas besoin d'innover. Ce qui est important, c'est de mettre les outils et les conseils à disposition des gens, et ensuite les gens s'en saisissent et font ce qu'ils veulent avec. Donc ce discours de la publicité de soi permanente, on n'a pas vraiment fait ce travail, on a préféré se concentrer sur les ateliers. De la même manière, l'association organise parfois des événements, et on a préféré être près des gens qui en ont besoin, les gens du quartier, que d'aller chercher à faire des choses qui ne nous ressemblaient pas.
T'as parlé des financeurs qui parfois ne veulent pas voir certaines choses. Quand je parlais de ton bouquin tout à l'heure, c'était aussi un peu dans cette optique de dire toutes ces choses-là qui sont pas forcément visibles. En fait, si on sait que ça a lieu, enfin, on peut pas faire comme si les financeurs, les collectivités peuvent pas faire comme si ça n'existait pas. Est-ce que t'as tenu pourquoi ça coince? Pourquoi est-ce que en fait on vous donne pas l'argent qui pourrait correspondre aux missions d'utilité publique, d'éducation populaire, de présence dans un quartier populaire, qui sont en fait les missions que vous réalisez?
Oui, mais je pense que là, il y a deux facteurs. Les décideurs ont très peu de temps pour s'informer sur les associations. Ils ont leurs préjugés, c'est souvent des hommes. La couture, peut-être que ça les intéresse moins. Et c'est très dur aussi de se saisir de tout ce qui se passe à récupérer en deux secondes. Il faudrait vraiment y rester longtemps. Du côté de Récupère, on a fait le choix d'un accueil inconditionnel des gens. Et donc, on dit aux gens, c'est un atelier de vélo et de couture. Il n'y a qu'en restant un moment dans les ateliers qu'on se rend compte de tout le travail qui est fait. Par exemple, les adhérents et les bénévoles ont du mal à parler de ce qu'ils font parce qu'ils trouvent ça simple et naturel, mais ça ne l'est pas du tout. Par exemple, chaque année, il y a des chars pour le carnaval qui sont réalisés. Il y a des tenues pour des défilés, pour des spectacles de danse, pour des choses où on se dit... Ah ben on le fait pour dépanner, on le fait parce qu'on aime bien, on le fait parce que ça nous fait plaisir. Et donc dans cette association, il y a beaucoup de richesses produites. Et comme ça ne loge pas dans les cases des financeurs, on a du mal à l'évaluer. Par exemple, pour les financements, on nous demande souvent combien de déchets vous avez récupéré, vous avez évité, combien de vélos ont repris la route, combien de créations vous avez vendues. Mais ce n'est pas ce qui intéresse les gens qui viennent. Les gens qui viennent sont contents de se retrouver, sont contents d'être ensemble, de réaliser des belles choses, de faire des événements. Donc, on a un peu de mal à rentrer dans les cases.
Tu disais tout à l'heure que voilà, vous ne vouliez pas augmenter vos prix pour ne pas vous couper d'un certain public qui vient à l'atelier. Et pourtant, ben là, vous avez fait ce choix de dire on lance un appel aux dons et voilà, et chacun mettra ce qu'il voudra, mais en tout cas on peut survivre que comme ça. Et puis là, ben ça fait même pas une semaine et il y a déjà plus de 10 000 euros, c'est ça, sur les 20 000 que vous demandez qui sont récoltés. C'est génial, on pourrait dire, c'est surprenant, c'est une belle preuve d'amour et de à quel point récupère compte pour ces gens-là. Comment toi t'analyses cette réussite quand même de cette cagnotte là?
Ben, c'est touchant. En faisant le livre, j'ai interrogé des gens et j'avais déjà vu que l'association comptait énormément pour elle. Et on a souvent des témoignages. Les personnes nous envoient des cartes postales, viennent avec des gâteaux. Les bénévoles sont très impliqués. Ils sont très... ils sont très concernés par les problèmes de l'association. Donc, je ne suis pas étonné qu'on ait reçu des témoignages comme ça et de l'argent. Après, en parlant avec les gens, bon, j'ai vu que même certains adhérents et bénévoles qui sont qui ont des revenus très modestes donnent. Vraiment très, très modestes. Et il faut dire que l'association, elle compte, les gens s'y retrouvent. Dans la rue, pour certaines personnes, c'est vraiment l'activité principale. Il y a des personnes qui sont très isolées, qui s'investissent presque uniquement à l'association, qui sont voilà. On reçoit énormément par exemple, de nouveaux arrivants. Chez les migrants, chez les étudiants, donc l'association.
Nouveaux arrivants sur Bordeaux.
De nouveaux arrivants sur Bordeaux. Donc l'association, c'est un peu leur point de départ dans la ville.
On peut inciter donc les gens qui nous écoutent à aller, s'ils ont envie, s'ils ont les moyens, mettre ce qu'ils peuvent dans cette cagnotte. Je pense qu'on retrouve tout ça via le site de Récupère. Et puis ensuite, c'est une page sur Hello Asso. Peut-être un petit mot sur comment vous voyez la suite. A priori, on peut se dire que là, c'est bien parti pour que les 20 000 euros soient récoltés et que donc vous puissiez continuer. Est-ce que pour autant, ça enlève tous les problèmes et ça vous fait repartir le cœur léger, ou est-ce que ça va rester une bataille de tous les jours de continuer à faire vivre cette structure, Benjamin ?
Je pense que ça sera une bataille de tous les jours parce que... ce que je dis, c'est que ce que je pense aussi, c'est que l'association, c'est l'envers de la société dominante. C'est-à-dire que on nous invite tous les jours à produire davantage, à faire des choses ostentatoires et à être en concurrence les uns avec les autres. Et à l'association, on s'occupe un petit peu de ce qu'il y a sous le tapis, des déchets, mais aussi des personnes exclues. La société dominante nous pousse à être dans la consommation. Là, on invite les gens à penser et à faire par eux-mêmes. Voilà, donc on est un petit peu l'envers l'envers de cette société, un peu le contraire. Par exemple, chacun pour soi, dans l'atelier, c'est l'entraide. Et j'étais beaucoup influencé par, et l'association, par les textes de Fatima Ouassak sur l'écologie populaire. Et c'est pour ça qu'on ne loge pas dans les cases. On essaye de mélanger écologie, social, dignité, art et convivialité. Et comme tout est mélangé, c'est plus compliqué de rentrer dans les cases des financeurs.
On rappelle donc que l'association Récupère, elle est basée rue Carl Vernet à Bordeaux, donc derrière la gare. Il y a des horaires de permanence pour les ateliers vélo, donc on peut venir réparer ou aider d'autres personnes à réparer son vélo. Il y a des permanences aussi pour la couture. Je ne sais pas si tu les as en tête ou on invite à aller sur votre site internet.
Alors les horaires, c'est le mardi, le mercredi et le samedi après-midi, de 14h à 18h.
Très bien, voilà. Merci Benjamin. On continue à parler de ce sujet en prenant peut-être un peu plus de hauteur et en passant du cas particulier de Récupère à ce qui peut se passer de manière plus générale pour les associations. Aujourd'hui, on a interrogé un peu plus tôt ce matin Marianne Langlais, qui fait partie du collectif des associations citoyennes. Elle est coordinatrice de l'Observatoire citoyen de la marchandisation des associations. Et on lui a demandé pour commencer, qu'est-ce qu'elle pensait de cette situation de Récupère et en quoi peut-être cette situation elle était typique ou exemplaire de ce qui se passe pour les associations employeuses. Aujourd'hui, on écoute Marianne Langlais.
Oui, alors ça s'inscrit dans un paysage qu'on essaye de décrire justement dans notre observatoire citoyen de la marchandisation des associations, un paysage général qui effectivement change la situation de plein d'associations. Alors les associations, notamment les associations employeuses en France, ce qu'on décrit nous, c'est la transformation des modes de financement des associations entre 2005 et 2017. En fait, la place des subventions dans la part des recettes associatives a baissé de 41%. À l'inverse, la part des ressources marchandes a augmenté de 34%. Et c'est ce qu'on qualifie, nous, justement, au collectif des associations citoyennes, de processus de marchandisation. C'est-à-dire que la subvention publique, elle venait soutenir l'association elle pouvait venir soutenir l'association dans son fonctionnement. La transformation des modes de financement, c'est-à-dire le passage de la subvention de fonctionnement à des subventions sur appel à projet ou plus grave encore à des appels d'offres qui là font entrer des acteurs marchands dans ces secteurs, transforment complètement les modes de financement des associations et transforment le regard qu'on porte sur elles.
On se doute bien que ce n'est pas les associations qui ont voulu ce changement-là, ce passage de la subvention vers cette marchandisation dont vous parlez. Là, qu'est-ce qui a amené à ce basculement-là entre 2005 et 2017, par exemple, entre les années 2000 et aujourd'hui, en gros, qu'est-ce qui a changé peut-être dans l'attitude de l'État, des collectivités, dans l'utilité, l'usage qu'on avait envie de faire des associations pour en arriver là, Marianne Langlais ?
Mais pour nous, c'est en fait deux grandes tendances de fond qui s'inscrivent dans un temps long. C'est-à-dire que c'est l'entrée dans les années déjà 80 d'une nouvelle gestion publique, le New Public Management, qui en voulant améliorer l'efficacité de l'État et s'inspire des méthodes de gestion du privé lucratif finalement et introduit dans les services publics et par ricochet dans les associations, la culture du résultat, de la performance, de l'évaluation quantitative, du management par objectif, et finalement, elle fait entrer les associations dans les outils, les méthodes de gestion du privé lucratif, qui sont jugées plus efficients, plus légitimes finalement. Et à cette première grande tendance, il y a les règles de concurrence qui nous sont imposées par le marché unique européen, qui veut que seule une défaillance du marché peut justifier l'intervention de l'État dans les activités économiques, qu'elles soient portées par des entreprises ou par des associations. Parce qu'au niveau européen, il n'y a pas de protection du statut associatif en quelque sorte. Il y a des exemptions à la règle au marché général, du marché unique, mais les associations sont des entreprises comme les autres. Et donc, elles sont soumises aux mêmes règles du marché unique. Et les subventions peuvent être, dans ce cadre-là, perçues comme des aides d'État et donc perçues comme des possibles moyens de fausser le principe de la libre concurrence. Parce que la concurrence doit être, dans ce marché unique, libre et non faussée. Et donc, dans ce contexte-là, en fait, la politique de subvention à la française, on va dire, est bridée en fait par ces règles européennes. Et pour éviter d'être en contradiction avec ces règles, les collectivités publiques, elles préfèrent passer par des appels d'offres, elles préfèrent passer par de la commande publique, en fait, plutôt que de la subvention.
Voilà, Marianne Langlais, coordinatrice de l'Observatoire citoyen de la marchandisation des associations au collectif des associations citoyennes. Il y a plein d'infos à retrouver sur leur site internet. Benjamin Pichot-Garcia, tu es resté avec nous. Je rappelle que tu es mécanicien animateur à l'association Récupér. Tu as reconnu la situation de Récupér dans ce que décrivait Marianne Langlais, d'une réaction à tout ça?
Complètement. Et voilà, je suis très d'accord avec son analyse du néolibéralisme et du capitalisme qui s'invite dans les associations. Donc, de plus en plus, on nous invite à proposer un produit, on nous invite à innover et à proposer des choses toujours nouvelles. Et comme je le disais, avant, le vélo et la couture, c'est quelque chose d'assez traditionnel. Et nous, on propose des savoirs. On propose d'outiller les gens en savoir et en confiance. Et ce qu'on remarque à l'association, c'est que les personnes ont tendance à diversifier les activités, à vouloir faire plein de petites choses, à s'inscrire dans l'histoire de l'association, à vouloir rester. Inscrire les associations dans le temps, dans l'histoire des émancipations, des luttes, des réappropriations de savoir, des réappropriations d'outils. Et on peut par exemple inviter à se demander si un atelier partagé dans un quartier, c'est pas équivalent à une bibliothèque municipale, ou bien un four ou un moulin communautaire. C'est-à-dire un outil que tout le monde aurait à sa disposition. Ce que nous invite à faire le logiciel néolibéral, c'est de nous concurrencer, d'innover, d'oublier ce qu'on avait fait l'an dernier pour toujours se projeter. Et ce qui veut dire qu'il va nous falloir, si on épouse ce logiciel, oui, exclure les bénévoles les moins rentables, les moins efficaces. Ce que nous propose le néolibéralisme, c'est un modèle où que les meilleurs et les plus compétitifs survivent. Or, nous, c'est exactement le contraire. On travaille avec les personnes les plus exclues, on essaye d'embellir les objets les cassés, on essaye de réparer. Donc, on va à l'encontre de ce logiciel.
Et tu parles des bénévoles, mais c'est aussi le cas pour les salariés. C'est un élément qu'on a peu abordé, mais la situation des salariés dans ces assos, bien souvent, c'est aussi eux qui sont conduits, voire contraints à tenir à bout de bras leur structure, d'y consacrer énormément de temps et d'énergie, ou bien d'en souffrir, d'en partir en étant épuisés, d'être là aussi éliminés par cette sorte de concurrence interne. Il se trouve qu'on fait partie tous les deux, Benjamin, d'un syndicat en tant que salarié d'association, Asso Solidaire, qui regroupe des salariés d'association. Et on peut dire, pour les salariés concernés qui nous écoutent, que c'est aussi souvent salvateur de se regrouper et de pouvoir parler de nos conditions de travail, d'ailleurs avec ou sans syndicat, mais de pouvoir échanger sur nos situations et se défendre collectivement par rapport à ce qu'on peut vivre et à ce qui génère de la souffrance et de l'épuisement bien souvent. Merci beaucoup, Benjamin, Benjamin Pichot-Garcia. Donc, je rappelle l'appel à don, la cagnotte de Récupère, qu'on peut retrouver sur votre site récupère.org et sur Helloasso. Et puis, ton bouquin aussi, l'Atelier des miracles, qu'on trouve dans toutes les bonnes librairies.
Oui.
Merci beaucoup, Benjamin.
Merci.